Daniel Gérineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Carlton Sélection. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Commençons, si vous voulez bien, peut-être par les taux, hein, cet environnement de taux qui bouge. Aux États-Unis, on avait un scénario 2015 relativement simple. On avait ce mois de juin 2015, on voyait effectivement une hausse de taux arriver à ce moment-là. Et puis, ça se déplace un petit peu. Il y a plus de débats sur le contenu des chiffres. Comment vous analysez, vous, la situation aux États-Unis aujourd'hui ?
Alors moi je pense que les États-Unis sur la politique de taux d'intérêt, on a une situation qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a la position d'échange qui intervient de façon extrêmement importante aujourd'hui. Le dollar s'est quand même très très fortement réapprécié et lors du dernier FOMC, Madame Yellen a quand même indiqué de façon très très claire qu'elle était très préoccupée par la forte hausse du dollar. Bon, on sait que les États-Unis ont quand même une position relativement limitée en termes d'exportation par rapport au PIB, même si ça joue quand même de façon importante, mais ce n'est pas non plus le cœur de leur business. Donc la politique monétaire qui va être menée sera quand même très liée à la politique de change. La politique de change, elle l'indique, elle souhaite avoir un dollar qui soit à des niveaux qui soient quand même raisonnables pour ne pas obérer la croissance économique américaine. Donc moi, j'ai un peu le sentiment qu'elle va retarder sa politique de hausse de taux. Évidemment, au départ, initialement, tout le monde prévoyait une hausse de taux au mois de juin, puis peut-être au mois d'août. Moi, je pense qu'elle tempérera de plus en plus pour éviter de voir flamber à nouveau le dollar. Donc c'est une situation qui va être relativement, je dirais, homéopathique sur les taux d'intérêt.
Oui, puisqu'on avait vu d'ailleurs certaines grandes entreprises américaines commencer à effectivement être impactées par cette hausse de la devise américaine.
Oui, tout à fait. Alors ça joue pour beaucoup parce que ça provoque une chute un petit peu du commerce extérieur, une perte un peu de rentabilité, de profitabilité. Mais en face de cela, il y a évidemment le contre-choc pétrolier qui a permis de dégager une bouffée d'oxygène pour les entreprises. On estime qu'en gros, ça va donner à peu près 2,8% d'augmentation de chiffre d'affaires et 2,6% de bénéfices. Mais enfin, cette situation, elle est quand même un petit peu tendue. Je pense que les États-Unis sont quand même dans une situation où ils ont par le passé bénéficié de facteurs extrêmement favorables, de taux d'intérêt extrêmement bas, quantitative easing, c'est terminé, des taux qui sont plutôt à la hausse, même si ce sera modéré. Parallèlement à ça, une énergie pas chère. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, le coût d'exploitation ou d'extraction plutôt du gaz de schiste était $60 l'équivalent baril, ce qui fait un avantage comparatif qui est quand même extrêmement important, alors que nous-mêmes, nous le payions entre 95 et $105. Cet avantage-là a totalement disparu, donc ils vont se retrouver dans une situation un petit peu différente, et c'est peut-être l'Europe qui aura plus de bénéfices comparatifs par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire le même coût de l'énergie, des taux d'intérêt qui vont durablement rester, quand je dis durablement sur les taux courts, je pense que ça tiendra pendant 2 bonnes années, et donc une politique monétaire expansionniste avec le QE de la BCE qui va évidemment donner une bouffée d'oxygène. Après, on peut se poser la question de l'impact sur les taux d'intérêt, évidemment. La Banque Centrale Européenne agissant de façon extrêmement violente, marquée sur le marché interbancaire, sur la production de masse monétaire, puisqu'on voit déjà que M3 commence à remonter, il souhaite monter le bilan d'un trilliard, c'est-à-dire revenir à 3 trilliards, ce qui était la fin des fameux LTRO, puis après on avait eu une contraction du bilan de 1 trilliard. Donc la Banque Centrale Européenne est dans une logique plutôt de taux bas. Les États-Unis sont dans une logique de taux qui va remonter, un avantage comparatif de vis qu'ils n'ont plus, et des taux d'intérêt, encore une fois, qui seront plutôt sujets à ralentir la croissance économique plutôt que de la promouvoir. Donc je pense que même si la croissance est auto-entretenue, le marché a quand même très fortement performé. On a fait en gros ces 5 dernières années 25% en moyenne chaque année sur les indices américains. Donc on est quand même peut-être maintenant...
Ça fait beaucoup, donc... en termes de valorisation
En termes de valorisation, bon, on est à 16,5 de PE. On est à peu près à 14. Il y a toujours un delta entre les États-Unis et l'Europe. Il n'y a rien d'anormal. Bon, maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'évidemment, il y a toujours des catastrophes qui peuvent être vues. Moi, j'y crois pas trop parce que je pense, d'une manière générale, que le monde veut s'en sortir et qu'on trouve toujours les bonnes solutions. Regardez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. On est dans une situation quand même un peu de corner. Malgré tout, les marchés réagissent plutôt bien parce qu'on sait très bien qu'au final, on trouvera une solution qui arrangera tout le monde. Sur les taux d'intérêt, bien évidemment, on est dans des cycles maintenant qui vont se déphaser, puisque sur la partie taux court, les États-Unis donc, vont se tendre un tout petit peu. En Europe, on va rester avec des taux bas. Par contre, quid de la partie longue de la courbe des taux, où là, je pense, quand on regarde les coefficients de corrélation qu'il y a entre les taux courts et les taux longs américains et allemands, on voit qu'il y a une très, très, très forte corrélation sur la partie longue, mais la corrélation disparaît totalement sur la partie courte. Donc, on voit clairement qu'on risque d'être impacté par une hausse de taux US.
Justement, on arrive quand même des fois à des situations, on va dire historiquement, hein, on n'a jamais connu ça, quand on voit que des dépôts effectivement négatifs, on parlait de l'Allemagne, effectivement, on parle d'un coffre-fort allemand, mais enfin, des taux négatifs, on n'a jamais vu ça. Donc on peut se dire, ça peut créer de l'inquiétude à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on parle.
Alors moi je pense, pour prendre une formule assez basique, on est en train de reprendre l'argent à l'argent. Tout simplement, on vit sur une montagne de dettes. Si vous prenez le cas de la France, on est à un peu plus de 98% de dette sur PIB. Le ratio est quand même très très élevé. 2,4% du PIB correspond simplement au paiement des intérêts de la dette. C'est quand même énorme quand on sait qu'on a une toute petite croissance. Donc clairement aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait nouvelle où on a d'un côté des pays extrêmement bien notés qu'il faut payer pour avoir, pour donner son argent. C'est quand même une situation inédite, mais d'un autre côté, il y a tellement de dettes, tellement d'incertitudes que finalement les gens acceptent pour la sécurité de perdre un peu, chose qu'on n'a jamais vue. Mais le monde étant vraiment couvert de dettes, hein, un petit peu partout, hein, il y a très très peu de pays à part la Russie qui a un ratio dette sur PIB extrêmement bas, la plupart des pays occidentaux ont beaucoup de dettes, pour établir l'équilibre entre l'investissement et l'épargne. Dans une situation où les pays sont très fortement endettés, on peut se poser la question de l'utilité, effectivement, de taux d'intérêt négatifs. On va peut-être vivre une ère un peu nouvelle avec des taux d'intérêt réels négatifs. Bien évidemment, il y a un an de cela, si on interrogeait les acteurs, personne ne disait « les taux d'intérêt vont encore baisser » et pourtant ils ont baissé. On a des taux d'intérêt réels aux États-Unis qui sont très fortement négatifs. Qui sont négatifs un peu partout, c'est une façon de reprendre d'argent. On veut redonner à l'économie réelle sa vraie place. Le système financier doit favoriser l'économie réelle. Pour le faire, bien évidemment, il faut insuffler de l'argent, ce que fait la BCE, mais encore faut-il que cet argent arrive au niveau des entreprises. Et c'est là un petit souci, c'est que la politique monétaire américaine, elle arrive directement sur le marché. Nous, on passe par le biais d'établissements bancaires.
Toujours la courroie, voilà, qu'il n'y a pas toujours le suivi derrière et les entreprises peut-être n'ont pas effectivement l'effet escompté.
Alors on n'a pas de chance parce qu'on a Solvency II, on a Bâle III qui sont arrivés en même temps que la fin de cette crise, une montée des risques entre 2008 et 2012, 2013, et donc les établissements bancaires ne sont pas enclins à avoir du risque parce que le risque coûte cher et puis les entreprises ayant des carnets de commandes relativement faibles n'ont pas trop envie d'emprunter non plus. Le taux d'utilisation des capacités industrielles est quand même assez bas en Europe, donc il n'y a pas de raison d'investir. Et c'est là qu'est un peu le problème.
Le mot de la fin, pour l'investisseur, c'est quand même pas évident, ce nouveau panorama d'investissement, l'allocation d'actifs, comment elle évolue pour vous?
Alors, pour moi, si on reprend toutes les classes d'actifs, le monétaire, il faut complètement oublier, il n'y a plus de taux. Hein. Sur la partie, si on a des liquidités, c'est l'obligataire court terme, mais il faut quand même privilégier essentiellement le high yield, même si le rendement est... l'investment grade est vraiment mettre assez peu de high yield, les spreads sont très très bas, donc il y a un risque de retour si toutefois il y avait des accidents sur le marché qui ne serait pas en faveur de ces investisseurs, donc de l'obligataire court terme. Bon, ça c'est vraiment pour le placement des liquidités. Après, sur la partie obligation long terme, moi clairement je ne m'investirai pas parce que je trouve que là on a une sensibilité qui est extrêmement forte puisque les taux sont bas et on a un risque d'effet de levier ou de convexité, mais vraiment pas dans le bon sens sur ce segment-là. Sur les marchés américains, je ne m'investirai que très modérément ou de manière extrêmement sélective pour une raison très simple, c'est qu'on a aujourd'hui des PE qui sont à leur bonne valorisation. On a un marché qui est quand même qui a tenu compte de ces améliorations de la situation économique avec les paramètres qu'on a indiqués, qui sont quand même des paramètres qui ne sont plus présents pour l'économie américaine. Il faut être prudent, ça ne veut pas dire pour autant que la bourse va s'effondrer, hein, bien évidemment. Mais on est quand même dans une situation de fin de course. Après, sur la zone européenne, je pense qu'il y a des perspectives, parce qu'il va y avoir le plan Juncker, il y a le CICE, on a des baisses de taux, on a des injections de liquidités, on a des entreprises qui ont bien géré, qui ont encore des perspectives de performance, et des marchés émergents qui ont pas mal souffert, qui vont peut-être repartir progressivement. La situation russe va finir par se décanter, et ceci sera positif pour l'Europe.
Merci Daniel Gérino d'avoir été avec nous.
Merci à vous.